Pas besoin de vous dire de quoi je vais parler, c'est écrit. Alors, première... Ah, voilà. Un petit rappel d'abord, c'est ce schéma chronologique qui vous montre la place qu'a pu jouer le moulin, le moteur à eau, hein, la machine hydraulique, dans l'histoire relativement récente, puisque je commence environ au 1er siècle avant Jésus-Christ, et que ça continue de nos jours. Il y a toujours des moulins à eau, toujours des roues hydrauliques qui tournent, hein. Il y a même de grosses roues hydrauliques qui fournissent de l'électricité encore. Et simplement, c'est resté quasiment un monopole des moteurs fixes. Je ne parle pas des moteurs mobiles que sont le cheval, l'homme et tout ce que vous voudrez. Hein. Je parle du moteur fixe. C'est resté l'essentiel pendant près de deux millénaires, puisque il y a bien sûr les moulins, ce qu'on appelle le moulin à sang, c'est-à-dire le moulin qu'on trouve en particulier dans l'Antiquité, qu'on trouve aussi au Moyen-Âge, qu'on a trouvé très tardivement dans les sucreries, c'est-à-dire un animal qui fait tourner une meule. On peut dire que la machine est fixe, même si l'animal bouge, mais sinon, c'est le moulin à eau qui l'emporte. Le moulin à vent apparaît assez tardivement, vers 1100, et la machine à vapeur, je n'insiste pas. Quand je mets la machine à vapeur en place, ça ne veut pas dire, sur ma chronologie, qu'à partir de ce moment-là, il n'y a que des machines à vapeur. Hein. L'eau va régner encore longtemps sur l'industrie, et je vois mon homonyme qui arrive, et qui a défendu longuement cette thèse que l'hydraulique a été un élément essentiel de la révolution industrielle du 19e siècle. Je suis d'accord avec lui. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Ces moteurs hydrauliques, que sont-ils? Eh bien, ce sont deux types de machines, on en a déjà parlé, deux types de machines, les unes qui sont des machines avec une roue horizontale, d'autres avec une roue verticale. À la différence de Pascal Briouat, je n'emploierai pas le terme de turbine pour les machines à roue horizontale, puisque la turbine est quelque chose de plus complexe, hein, qui est beaucoup plus tardif, et il faut que, pour qu'il y ait turbine, que la roue soit enfermée, en quelque sorte. Là, c'est une roue qui peut être à l'air et qui est alimentée par un cours d'eau latéral qui nécessite des roues d'un type particulier. Les autres, ce sont des roues verticales qui peuvent être alimentées par-dessous, c'est le cas ici, ou par-dessus. Par-dessus, alors ce ne sont pas des roues à palettes, ce sont des roues à auger, des sortes de petites boîtes dans lesquelles l'eau va s'accumuler et ça va être le poids qui va faire tourner la roue. Tous ces modèles sont connus dès l'Antiquité. On retrouve là, avec ces deux types de roues par-dessus, par-dessous, hein, c'est ce que nous disait André tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Les types de roues, même par-dessous, il y a des modèles assez différents, avec des roues plus ou moins larges, qui correspondent à des conditions naturelles différentes. Si vous avez un cours d'eau relativement lent, mais important, vous pouvez mettre ces roues à palettes larges, hein, à pales larges, mais alors elles vont tourner, elles vont avoir une vitesse de rotation qui va être limitée, mais la puissance sera donnée en partie par la largeur de la pale, et donc on va pouvoir mettre dessus des engrenages, hein, pour obtenir une vitesse convenable de la meule s'il s'agit du blé. Alors ces moulins, eh bien, ils sont connus dans l'Antiquité, un exemple d'Agendorn en Suisse. Autre exemple, un exemple en Angleterre de moulin hydraulique. Ça, c'est un des premiers qui a été fouillé, il y a déjà un bon moment. Voilà. Et ça, c'est une carte établie par Jean-Pierre Brun, hein, des moulins d'époque romaine. Des moulins d'époque romaine. Et vous remarquerez une chose, c'est que la région Provence-Côte d'Azur est particulièrement bien représentée. Non pas qu'il y ait beaucoup plus de moulins, à mon avis, à l'époque romaine dans cette région-là qu'ailleurs, mais c'est là que les travaux ont été les plus poussés. Hein. Voilà. Donc, on a là ces moulins, et j'ai marqué en violet des moulins testés par les sources écrites, et un petit signe un peu particulier que vous voyez en particulier en Asie mineure, qui est le signe qui représente les scies hydrauliques. Hein, et vous voyez que les scies hydrauliques sont attestées par l'archéologie en Turquie, en Palestine, mais aussi par les textes. Hein, sur la Moselle. Donc on a là une utilisation de l'énergie hydraulique à l'époque gallo-romaine qui est importante. Donc, je vous propose d'effacer de votre mémoire cette phrase célèbre de Bertrand G, de Marc Bloch, hein, invention antique, le moulin hydraulique et médiéval par l'époque de son expansion. Eh bien, ce grand homme qui a lancé les travaux sur le moulin en France, auquel je dois énormément, a dit Landry. Ce n'est pas le seul. Hein. Et il est probable qu'aujourd'hui, vous en avez entendu pas mal. Hein. Que dans 50 ans, ben, on dira peut-être qu'on avait tort. Même si, bon, alors il a fait avancer les choses, mais cette formule est complètement maintenant dépassée. Alors, ces moulins, ils apparaissent tout au long du Moyen-Âge. Vous avez ici un travail qui a été fait par Joséphine Rouillard, qui a repéré dans les lois barbares, donc 6e, 7e siècle essentiellement, hein, dans les lois barbares, la présence des moulins. Les moulins sont dans les lois barbares, et quand on détruit un moulin, on est puni, etc. Je ne rentre pas dans les détails. D'autre part, un document extrêmement important pour les gens qui s'occupent des moulins médiévaux du haut Moyen-Âge, ce sont les polyptiques, voici le c'est-à-dire des recensions des revenus des abbayes, qui sont particulièrement nombreux, ça c'est le polyptique Didier Minon, du nom de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, et on trouve le terme de farinarium, c'est le nom qui est employé pour désigner le moulin qui fait de la farine. Molendinum est employé aussi, mais ça c'est un mot qui est spécifiquement employé à l'époque médiévale. Alors voici ces polyptiques entre Loire et Rhin, hein, comme on dit, selon la formule, et là ces polyptiques qui nous décrivent l'existence de moulins. On voit que donc tout le quart nord-est de la Gaule, et jusqu'en Allemagne, eh bien, a connu le moulin au 9e siècle, au début du 9e siècle. Et voici, par exemple, les moulins de Saint-Germain-des-Prés. Moulins de Saint-Germain-des-Prés, le nombre de moulins est représenté par la couleur et le cercle représente l'importance du domaine, ce qui permet de voir, voir un rapport entre l'importance du domaine et le nombre de moulins. Et comme on sait le nombre d'individus qui existaient dans ces domaines, ça a permis de voir que dans les domaines de Saint-Germain-des-Prés, eh bien, la plupart des paysans, les tenures, ce sont donc celles des paysans. La réserve, c'est le domaine propre de l'abbé, hein, de l'abbé ou des moines. Hein. Eh bien, tout ça, ça se trouvait proche d'un moulin. Donc, dans cette région du centre du bassin parisien, on peut dire que dès le début du IXe siècle, on avait facilement accès à un moulin, puisque la plupart des individus, 90% des paysans, dans les domaines de Saint-Germain-des-Prés, se trouvaient à moins de 5 km d'un moulin. Alors, si vous voulez faire du moulin une innovation médiévale, il aurait fallu aller assez vite. C'est au tout début du Moyen-Âge. Ce qu'on retrouve dans le bassin parisien, on va le trouver ailleurs. Voici une carte établie d'après des données archéologiques. On est cette fois-ci à Majorque. À Majorque, quand on voulait l'échelle, c'est quand même quelque chose. On montre qu'il y a deux échelles différentes sur les cartes. En haut, l'échelle est de 100 mètres, en bas d'un kilomètre. On voit une multiplication des moulins sur des cours d'eau qui sont sur des cours d'eau, sur des canaux, hein, des canaux qui sont aussi des canaux d'irrigation. Il y a toujours au Moyen-Âge, ce n'est pas mon thème aujourd'hui, une liaison extrêmement étroite, hein, entre les canaux d'irrigation et les moulins. Voici encore toujours cet exemple en catalogue cette fois-ci, canaux d'irrigation et moulins. Alors ces moulins, que sont-ils ? Eh bien, ces moulins catalans, on peut penser qu'ils sont du genre de ces moulins catalans de haute époque, avant le XIIe siècle. On peut les penser assez proches de ces moulins qu'on trouve au Portugal, des petits moulins à roues horizontales et qui se succèdent ici, vous voyez, à quelques dizaines de mètres les uns des autres. Ce sont des moulins familiaux. Hein. Ça veut dire que tous les historiens qui ont basé leur étude du moulin médiéval sur le comptage des moulins, il faut être prudent. Alors, autre moulin du haut Moyen-Âge, c'est un moulin qui était fouillé à la frontière, cette fois-ci à Audaltich, on est à la frontière luxembourgeoise, et ce moulin, c'est un moulin qui a été retrouvé, bon, voilà ce qui reste en fouille, donc vous avez ici, vous avez au milieu une plateforme, c'est là qu'était le moulin, quatre pieux verticaux, c'est ce qui supportait le moulin, et puis le reste, c'est les planches qui sont tombées. Alors, voici la roue telle qu'on a pu la reconstituer, hein, une roue à palette, hein, dans laquelle les aubes, hein, sont plantées en quelque sorte dans ce qu'on pourrait appeler la jambe de la roue, dans les cercles de la roue, hein, dans les courbes, comme on dit techniquement. Alors on peut imaginer ce moulin d'Audaltich un peu comme ce moulin portugais, le Portugal a le gros avantage d'avoir été très très longtemps un conservatoire de techniques anciennes, grâce à M. Salazar, n'est-ce pas, qui avait tout fait pour ne pas développer son pays. Alors, donc, là, on a ce moulin qui est sur quatre pieux aussi, qui est dans la rivière, et la roue sur le côté. La roue est un peu plus évoluée déjà. Voilà. Alors, ces moulins sont très nombreux très tôt. Hein. Voici un état, le Domesday Book en Angleterre, c'est cette sorte de recension de tous les biens de l'Angleterre fait par Guillaume le Conquérant, le bâtard qui s'est transformé en conquérant en traversant la Manche. Hein. Et 1086, il y a environ 6082 moulins en Angleterre. D'après les chercheurs anglais et d'après les résultats archéologiques récents, l'essentiel de ces moulins antérieurs au XIe siècle ou antérieurs sont des moulins à roue horizontale. Et on a confirmation par ce qui est étudié dans l'île voisine qui est l'Irlande, où il y a des gros travaux archéologiques qui ont été faits grâce à l'Europe, hein, puisqu'on a cherché à remettre en valeur des terres abandonnées en Irlande et que ça n'a rien donné au point de vue agricole, mais ça a donné des résultats archéologiques. Il y a 28 sites datés par dendrochronologie entre le début du 7e siècle et le début du 10e siècle. Eh bien, ces moulins sont presque tous des moulins à roue horizontale. Aussi, le reste de ces moulins à roue horizontale, voilà l'alimentation hein, d'un de ces moulins. Vous voyez, l'eau arrive par cette sorte de buse et elle va frapper la roue hein, qui a des pales courbes, pour mieux profiter. Hein. On retrouve là encore, oui, on n'a pas attendu Léonard de Vinci pour essayer de comprendre hein, l'intérêt qu'il y avait à avoir des pales plus ou moins travaillées. Moulin, ça je vous l'ai mis parce que celui-là c'est moi qui ai fouillé. Hein. Bon, c'est le même type de moulin, mais sur une structure en pierre et non plus une structure en bois, parce que cette fois-ci on se trouve en Sicile. Alors, ces moulins. Maintenant passons au moulin le plus répandu à partir du XIIe siècle, qui est le moulin à roue verticale. À roue verticale, alimentation par dessous, quand on est dans les pays relativement, on va dire de plaine, hein, quand, dès qu'on monte un petit peu, on a de l'alimentation par-dessus. Ça, c'est extrêmement schématique. Hein. Il faudrait des heures pour parler de tout cet ensemble. Voici, alors, un moulin qui est, alors, type d'installation. Il y a des moulins qui sont installés sur un barrage qui va barrer la rivière. Ici, c'est un moulin qui existait déjà au XIIe siècle. C'est un des gros moulins de Sens. Vous voyez évidemment que ces moulins, comme toutes les installations hydrauliques qui vivent, hein, et si c'est conservé, c'est que ça a vécu. Ça a passablement changé d'allure, mais le barrage était là. Les écluses n'étaient pas les mêmes, enfin les vannes n'étaient pas les mêmes. Le moulin a été reconstruit, mais c'est un moulin du XIIe siècle. Ça permet de contrôler bien l'arrivée d'eau, d'avoir une grosse capacité de production. C'est un des plus gros moulins de Sens. Il appartenait à l'archevêque de Sens, et moitié à l'archevêque, moitié au chapitre. Puis ensuite, le roi a mis un peu la main dessus. Hein. C'est une très grosse machine et qui avait une grande valeur. L'inconvénient de ce système, c'est que ça barre la rivière. C'est que ça barre la rivière, donc la navigation devient impossible, on en a déjà parlé. D'autres barres, aussi, des barrages sont des barrages sur un étang. Voici le plan, vous avez là l'ancien moulin de Quincy, vous voyez la route qui passe sur une digue. La digue est ici. Autrefois, tout ça, c'est un étang. Et le moulin est là. Placé sur l'étang. Là, on a une petite quantité d'eau qui passe. Il y a une grosse réserve d'eau, mais cette réserve n'est pas directement utilisable. On va avoir un moulin probablement à roue par-dessus. On ne peut pas vous le dire parce qu'actuellement, c'est une turbine qui ne fonctionne plus d'ailleurs. Alors, ce moulin à roue par-dessus, voici une représentation du XIIe siècle. Voici maintenant ce que Orsatelli, qui a fait un très beau livre sur les moulins, a pu reconstituer. Voilà, donc vous avez la roue qui entraîne l'arbre. L'arbre qui va entraîner, c'est une autre roue qu'on appelle le rouet. Sur ce rouet, il y a ici ces petites pièces de bois, tout ça c'est en bois. Ces pièces de bois qu'on appelle des aluchons, qui vont s'engrainer sur cette sorte de cylindre.
Ah, oh. Et vous pouvez même garder le micro.
Voilà. Voilà, sur cette sorte de cylindre là qui est formé de deux cercles et entre des petits bâtons, en quelque sorte, hein, et sur lesquels vont s'engrainer les aluchons, et tout ça, ça fait tourner la meule supérieure, la meule courante, et dessous, c'est la meule dormante. Dessus, il y a une trémie. Voilà. Ça, c'est le moulin classique, et c'est le moulin qui va exister, qu'on retrouve encore dans l'encyclopédie, hein, qui a fonctionné encore au XIXe siècle. C'est le moulin de Vitruve aussi, hein, c'est pas très très neuf. Alors, ces moulins, donc, qui sont installés soit sur des étangs, soit en barrant la rivière, sont très souvent installés sur des biefs. Et c'est là-dessus que j'aurais terminé cette présentation des moulins. Ici, vous avez un barrage qui est ici, un bief qui est dérivé, là, c'est l'abbaye d'Assay, et le moulin est là. Il était là, il est toujours là, mais simplement, il n'entraîne plus une roue, il entraîne une turbine, hein, qui fournit une partie d'électricité nécessaire à la petite usine des moines qui est ici. C'est de l'électrométallurgie, mais enfin, ça, c'est un autre problème. Voici un autre exemple, hein, qui montre que les travaux sont parfois importants. On utilise cette rivière qu'on appelle le Serein, qui est un affluent de l'Yonne. Là, l'abbaye de Pontigny, le bief est là. Le barrage, vous le voyez, c'est un barrage médiéval, mais il a servi pendant des siècles. Ça a été mis en place au XIIe siècle. Et pourquoi je vous dis qu'il est médiéval? Parce que la canalisation, elle arrive dans l'abbaye à la bonne altitude. Donc le barrage était déjà là. Hein. Simplement, il a été modifié. Vous avez des traces de réfection moderne là. Et ici, de la réfection contemporaine, c'est du béton. Hein. Donc, simplement, l'importance des travaux, vous avez deux petits ponts. Et ce sont des aqueducs, deux ponts aqueducs, qui permettent de faire arriver le bief. On a 3 km et quelques de bief. On peut avoir des choses beaucoup plus importantes. Ici, c'est l'alimentation en eau de l'abbaye de Citeaux. Il y a une rivière qu'on appelle, cette rivière-là, s'appelait la Sans-Fond, elle s'appelle toujours la Sans-Fond. Ça devrait s'écrire C-E-N-F-O-N-T-S, mais maintenant ça s'écrit S-A-N-F-O-N-D. Hein. Sans-Fond, ça veut dire sans fontaine. Hein. C'est sans fontaine qui l'alimentait. Mais elle a un fond quand même. Bon, voilà. Et ce qu'ont fait les moines au début du XIIIe siècle, ils ont détourné cette rivière pour aboutir à l'abbaye de Citeaux avec une chute de 9 mètres. Il a fallu passer par-dessus une petite rivière, ici, la Varaude, c'est-à-dire que tout là, vous avez un ensemble, votre canal de la Sans-Fond, cet aqueduc de la Sans-Fond, est un aqueduc qui va être au-dessus de la plaine. Hein, il y a de gros travaux qui sont faits, qui ont été faits. Vous avez là le pont canal, vous voyez qu'il n'est pas très important, ce n'est pas le pont du Gard. Hein. Voilà. Alors, dernières images avant de vous présenter des cas tout à fait plus particuliers, ce sont les moulins autour de Bordeaux. Moulins autour de Bordeaux, qu'est-ce qu'on voit? Que ces moulins sont nombreux et qui ne sont pas, ou presque jamais, sur la Garonne. Ils sont toujours sur les rivières affluentes. Ça s'explique assez facilement. Construire un moulin sur la Garonne, c'est arriver à maîtriser un fleuve important. Si vous voulez faire un moulin, vous ne pouvez pas barrer la Garonne, hein, surtout à cet endroit-là. Vous ne pouvez pas non plus espérer construire quelque chose. Il y a des crues qui peuvent arriver. Donc, on va utiliser d'abord les rivières, essentiellement les rivières qui se jettent dans la Garonne, petite rivière beaucoup plus facile à contrôler. La conquête des grosses rivières, c'est plus tardif. Alors, je regrette qu'André ne soit pas là. Bon, non, mais ce n'est pas grave. Hein. Mais je lui montrerai, il connaît. Mais on a travaillé, nous aussi, à la suite de ces travaux, d'ailleurs, sur le cas de la ville de Provins. Et voici tous les moulins médiévaux qu'on a pu retrouver à Provins. Je ne vous garantis pas qu'ils ont tous fonctionné en même temps. Hein, mais ils ont fonctionné quand même un gros paquet. Donc, grand nombre de moulins. Ces moulins avaient des usages différents. Je vais parler des usages tout à l'heure. Vous voyez que la ville de Provins, avec ses passage d'eau, était très largement approvisionné en moulin. Alors, une remarque, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu d'abord un premier travail qui a été fait au XIe siècle, XIIe siècle, c'est l'aménagement de ce réseau intérieur. Au XIIIe siècle, Thibaut IV décide, ça c'est l'autre, c'est Thibaut II et Henri le Libéral, bon, bref, a décidé de fortifier la ville, en faisant autour de la ville un fossé rempli par les eaux du Durtain. On n'a pas eu le Durtain déjà, mais arrivent aussi dans la ville deux autres cours d'eau, un petit ruisseau qu'on appelle le Rue des Auges, et puis là, cette rivière qu'on appelle la Voulzy. dont les Parisiens boivent l'eau presque tous les jours, hein, puisqu'il n'y a pas que l'eau de Lavanne qui fournit de l'eau à Paris. Voilà. Donc, là, si on n'avait rien fait, tous les moulins à l'intérieur de la ville se seraient trouvés coupés d'alimentation. D'où la nécessité d'approvisionner la ville avec de l'eau, et donc de faire passer les eaux de la Voulzie sur un pont. Alors, il est là, le pont, il est caché par la végétation, et là, l'eau de la Voulzie, elle arrive ici. Alors, le pont, le canal du pont n'est pas très, très profond, et l'eau va s'écouler sur les côtés. C'est ce qu'on appelle le pont qui pleut localement, hein, puisqu'il y a toujours de l'eau qui s'échappe. Alors, c'est le pont qui pleut. Voilà. Et donc, ça permet de réguler aussi, de réguler l'arrivée d'eau dans la ville de Provins. Alors, tout ça, c'est magnifique d'un point de vue théorique. Ça n'a pas toujours marché parfaitement, hein, parce qu'on a toujours eu quand même des inondations à Provins. Et actuellement, il y a toujours des problèmes d'instabilité des sols. Bon, bref. Simplement, pour vous montrer tout ça, les travaux qui ont été faits. Alors, je devrais continuer en restant un peu dans le même coin, avec le cas de la ville de Troyes. La ville de Troyes, avec ses multiples moulins, il y en a partout, hein, à 1,2 km de mon échelle. Et ici, il y a des moulins dans la ville, un peu à l'extérieur de la ville aussi, sur ce bras extérieur, parce que toute cette partie-là, tout a été refait. À Troyes, rien n'est naturel, dans la mesure où le mot naturel signifie quelque chose. Hein. Tout a été refait, et en particulier d'énormes travaux qui ont été faits par les grands comtes de Champagne du XIIe siècle, Henri Ier et Thibaud II et Henri Ier le libéral. Et c'est là que ces canaux ont été mis en place pour faire fonctionner, pour donner une vie à tous ces moulins. Alors, ces travaux ont été énormes, énormes. Vous avez ici, hein, le canal est ici, et il est au-dessus du niveau de la plaine alluviale. Hein. On est sur des canaux, on est ici. Hein. Voilà. Donc, il y a l'alimentation en énergie hydraulique des villes est quelque chose qui devient capital, ce que nous disait d'ailleurs tout à l'heure André, hein, ça devient capital à cette époque médiévale. Alors, quand on ne peut pas avoir de canaux, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'énergie quand même, hein, avoir de l'énergie quand même, eh bien, on utilise les moulins bateaux. Les moulins bateaux, moulins à nef, vous en avez ici qui sont accrochés. C'est un document du XIIIe siècle, c'est la vie de Saint-Denis, hein, du fin XIIIe siècle ou début XIVe. On voit sous pont de Paris, hein, les bateaux qui sont ici, les roues des moulins, elles sont représentées d'une manière un peu particulière, parce que ça peut avoir un rendement terrible, hein, si c'était comme ça. Et puis, vous avez là, par contre, bien représenté le moulin avec ses meules, la trémie au-dessus, et les types qui viennent approvisionner le moulin en bateau. Alors, évidemment, au point de vue économique, c'est pas terrible. Il faut décharger les charrettes, hein, ça fait des ruptures de charge. Et puis ensuite, quel est l'inconvénient? C'est que s'il y a une grosse crue, ben, le bateau risque de fiche le camp. Hein, et quand il n'y a plus d'eau dans la Seine, ce qui était fréquent l'été, avant les barrages réservoirs, eh bien, le moulin ne tournait plus. Donc, ce n'était pas génial. Alors, on a remédié un peu à cette situation à partir du XIVe siècle, en créant des moulins qu'on va qualifier de moulins pendants, c'est-à-dire des moulins dont la structure était fixée au pont ou à des bâtis spécifiques, et que le meunier pouvait lever avec un treuil. Hein, bon. Mais c'était quand même, là encore, il y a des problèmes aussi liés aux crues. Et les moulins, c'est fragile. Alors, moulin bateau, excusez-moi. Le moulin chaud, voilà. Le chômage, oui, oui. Chômage de la rivière. Voilà. Là, voici un de ces moulins bateaux encore qui a été pris dans je ne sais plus quel pays de l'Est. Je crois que c'est en Slovaquie. Hein. Encore un moulin. Il y en a eu sur le Rhône très tardivement, au 19e siècle, on en connaît. Voilà. Alors, maintenant, je vais montrer parmi les travaux faits, hein, quelque chose qui est quand même assez remarquable. C'est en Catalogne, une dérivation faite pour amener de l'eau à Manresa. Manresa, c'est la petite ville qui est ici, qui a été très très longtemps un centre textile très important. Et donc un canal a été fait avec une dérivation sur cette rivière qu'on appelle le Llobregat. Hein. Vous avez ici le barrage, la prise d'eau, elle se fait là, et on a un canal qui se promène dans la nature, qui franchit à plusieurs reprises des cours d'eau. Et voilà ici ce canal, il a mis une cinquantaine, d'après de 50 ans, 45 ans, on va dire, à être construit. Il a fait, il a 26 km de long, il y a 8 ponts aqueducs, hein, et un dérivé de 10 mètres. C'est essentiellement sa fonction essentielle, à la différence des aqueducs gallo-romains, c'est de fournir de l'énergie. Et il a été utile, actuellement il a un côté, c'est touristique, hein, mais il a été utile jusqu'au début du XXe siècle pour faire travailler des usines textiles. Alors, les utilisations de ces moulins. Eh bien, la première de ces moteurs hydrauliques, ça va être de remonter l'eau. Voici un cas assez unique, mais intéressant. C'est le cas de l'abbaye de Rueda. Vous avez ici une grande noria. Vous avez une noria, vous avez donc la roue qui est là. C'est une photo d'une noria qui date du XIIIe siècle. La roue ne date pas du XIIIe siècle, mais l'installation date du XIIIe siècle. On voit la roue, ça a été utilisé jusqu'à assez récemment, cette grande roue, donc il y a des pales, et là étaient fixés des pots qui faisaient tomber l'eau dans le réceptacle qui est ici, qui est le début d'un canal, d'une canalisation interne à l'abbaye. Alors voilà la reconstitution qui a été faite par nos collègues espagnols, vu de côté. Voilà la grande roue ici. Voilà donc 16 mètres de diamètre. Hein, et l'eau qui va être ensuite va partir dans un canal. Voilà. Alors maintenant, comment ça fonctionnait? Ben ça, on est sur l'Èbre. Un barrage ici, et l'eau était dérivée, et là, la noria se trouvait là, et le puisait, puis l'eau partait par des canalisations qui faisaient tout le tour de l'abbaye. Canalisation aérienne. Alors, ces systèmes élévatoires, on les retrouve partout. Partout. On les retrouve là, je dis des bêtises, là. Celui que je vous ai montré, on est en Espagne. C'est-à-dire que là, le modèle, c'est un modèle qui vient du sud. Hein. Des norias comme ça, il y en a d'énormes. Il y a les norias de Tolède, par exemple, qui sont célèbres. Des grandes norias aussi au Maroc. Et tout ça, ça vient de l'Antiquité, avant l'arrivée des Arabes. Hein. Les norias de Leronde, tout ce que vous voudrez, c'est arrivé par les Arabes. Mais on trouve aussi de ces machines, des roues à godets, hein, ce qu'on va appeler des roues à godets, c'est des norias, finalement, qu'on retrouve à l'est de l'Europe. Qu'on trouve à l'est de l'Europe, sur ces rivières à cours. On en retrouve à Lübeck, on en retrouve à Wrocław, on en retrouve à Cracovie, à Brême, et à la fin du Moyen-Âge, ça commence à être remplacé par des pompes atmosphériques. Donc, il y a là toutes ces machines hydrauliques, et je vous montre quelques exemples là. Voici donc une de ces norias, une de ces. Voici une ici qui fonctionnait encore, c'est en Europe centrale là aussi. Et voici celle de Bâle, on voit ici les seaux qui vont jeter l'eau dans le canal qui est là. Donc, c'est Noria, et puis alors, on va retourner là où nous avait laissé Briouat, c'est-à-dire sur les dessins de Francesco Di Giorgio Martini. On voit ici une roue avec des godets, cette fois-ci, c'est pas une Noria, c'est une roue à godets. Hein. La machine va entraîner, donc, la roue hydraulique, c'est une roue de moulin. Elle va entraîner, on ne sait pas comment, hein, un arbre là-haut, et ça fait monter les godets qui sont ici. Ces pompes, on les retrouvera très très nombreuses dans les mines du XVIe siècle. Alors, à quoi ça sert? Donc, remonter de l'eau. Ensuite, activer l'industrie. Une des premières industries médiévales, c'est le textile. André nous en a parlé largement. Je vais prendre, moi, le cas de l'industrie du drap. Le drap, il est tissé. Vous avez un de ces grands métiers qui apparaissent au XIIIe siècle. Or, pour tous, c'est le tisser le drap, on va oindre la laine, c'est-à-dire qu'on va mettre dessus de la graisse. On ne peut pas vendre un tissu comme ça. Hein. Donc, ce tissu, il faut ensuite le fouler. Le fouler, pour lui donner aussi de la consistance, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans une cuve, hein, dans une cuve avec de l'eau tiède, de l'argile qui va servir de dégraissant, et puis des produits astringents pour le. En particulier, très souvent, de l'urine. Voilà. Et alors, le type passe sa journée à piétiner. C'est évidemment un métier passionnant. Hein. Et il faut payer à la main-d'œuvre. D'où l'utilisation, l'apparition d'une machine. Alors, peut-être au Xe siècle, certainement au Xe, en Italie, les premières apparitions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu avant. Hein. Une machine, ça, c'est un exemple portugais récent. On voit là, l'arbre, la roue est par là. Hein. l'arbre avec des cames, les cames qui remontent la tête du maillet. Autre représentation ici, hein, on ne voit pas où la cam va, le maillet va être entraîné, et le maillet va donc monter et descendre alternativement avec le passage de la cam, il va redescendre, puisque la tête du maillet, quand la roue tourne, va être abandonnée, le maillet va retomber par son propre poids et va frapper le tissu qui est dans la cuve. Ce maillet est denté, hein, pour pouvoir agripper le tissu au passage et le faire le retourner dans sa cuve. Voilà. Donc, ces foulons, il y en a partout. Voici un exemple, c'est les foulons de l'abbaye de Morimont. Ça, c'est les moulins à blé. Et les moulins foulons, 1 ou 12e siècle, ils se multiplient au 13e. Ils sont encore plus nombreux au 14e, 15e siècle. Voilà. Donc, multiplication des foulons dans toute l'Europe. Ça va changer assez considérablement les conditions de l'industrie du drap. Et la ville de Provins, dont je vous ai montré une image tout à l'heure, enfin une carte tout à l'heure, avait bon nombre de ces moulins qui étaient des moulins à foulons. Et pour avoir regardé les comptes de la ville de Provins, non, les comptes des comptes de Champagne concernant Provins, je peux vous dire que c'était un gros rapport pour les comptes de Champagne, ces moulins à foulons de Provins. Provins qui était une grande ville à l'époque. Hein. C'est à peu près la même ville que maintenant. Mais à l'époque, c'était considérable. Alors, ces moulins, il a fallu les installer. Voilà, un moulin qui est un moulin qui date au plus tard du XIVe, avec des roues qui sont évidemment, qui ont changé. Hein, c'est sur un bief sur la vanne, des roues qui sont des roues XIXe, hein, ou début XXe, mais le moulin était déjà là. Hein. On est à Villeneuve-l'Archevêque, sur la vanne, et il y avait là un petit complexe industriel avec des moulins foulons. Il y avait moulin foulon de drap, un moulin à piler la guêde. Alors la guêde, c'est cette plante-là, c'est-à-dire c'est le pastel. Le pastel qui est en bleu, là aussi, là, le pastel, qui a un gros avantage. André nous expliquait tout à l'heure qu'il fallait mordre sur le tissu. Et la guêde, le pastel, mord très facilement. Il faut généralement un mordant qui est là, je ne rentre pas dans les détails. Et le pastel, ça prend tout seul. Hein. D'où l'intérêt pour faire des tenues de soldats de l'horizon. Voilà. Alors, autre moulin, toujours concernant le textile, c'est des moulins à broyer les tiges de lin ou de chanvre. On peut ne pas utiliser l'énergie hydraulique, c'est comme pour les moulins à pastel. Hein. Mais s'il y a eu des moulins de ce type, alors je ne reviens pas sur l'utilisation de l'eau, hein, pour cette industrie. Ensuite, il y a bien sûr autre utilisation, ce sont les moulins à écorce. Moulins à écorce, là on voit le type qui est en train d'écorcer. Ensuite, les moulins, alors il faut broyer cette écorce, la réduire en petits morceaux. Là, on a un document beaucoup, beaucoup plus tardif, on est dans l'encyclopédie, hein, qui montre ces piles. On ne sait pas comment ça se passait au Moyen-Âge. Est-ce que ces piles existaient déjà? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, les moulins existaient. Une fois que l'écorce est réduite en petits morceaux, on la broie dans un moulin, c'est sec, on la broie dans un moulin type moulin à blé, hein, entre deux meules. Ensuite, alors, la scie. La scie, ça, c'est la première représentation médiévale d'une scie. On a vu qu'il y en avait dans l'Antiquité. Là, c'est une scie qui est un peu comme celle que nous présentait... Non, assez différente quand même de celle que nous présentait Francesco Di Giorgio ou Léonard, puisque là, il n'y a pas de mouvement système bien de manivelle. C'est un système de cam qui va appuyer sur le triangle qui est ici. Tout, là, c'est des points qui sont des points mobiles. Hein, et ça va abaisser la scie. La roue qui est là avec ses ergots va faire avancer la planche. Et le rappel de la scie, parce qu'il y aura un seul temps moteur, hein, le rappel de la scie va être fait par, ici, une branche de bois vert, hein, suffisamment souple. Alors évidemment, il faut la changer de temps en temps, ça s'use, hein, quand ça sèche. C'est Villard de Hancourt qui a dessiné cette scie. Les tentatives qui ont été faites pour la faire fonctionner sont douteuses. Voilà. Enfin, l'idée est là, et il y avait des scies, je ne sais pas si c'est, il y avait des scies hydrauliques au Moyen-Âge, on a attestation par des textes, c'était peut-être un peu moins simpliste que ça, mais enfin, voilà. Alors, ensuite, à la métallurgie. La métallurgie, eh bien, les premiers usages de cette énergie hydraulique pour la métallurgie, c'est, enfin, les plus simples, les plus anciens connus, c'est les meules. Les meules, hein, j'en ai trouvé une à Fontenay, il y en a peut-être d'antérieures. Alors, ça, bien sûr, la meule, ça peut être la meule de l'aiguiseur, mais il y a d'abord la meule du fourbisseur ou émouleur, hein, parce que quand vous avez forgé votre lame de couteau ou votre soc de charrue, etc., il faut lui donner une forme qui soit prête à ensuite être aiguisée. Hein. Et ça, ça se fait sur des grosses meules. Vous avez le fourbisseur de l'encyclopédie qui est là. Vous avez en bas des émouleurs à tiers, photo de fin 19e ou début 20e. C'est un métier de chien, ça encore. Hein. Vous voyez, type toute la journée appuyé sur les meules. Alors, de temps en temps, la meule se détache et le type, il se retrouve au plafond, un petit morceau. Hein. Voilà.
Pardon ?
Ça ne veut pas. Ok, alors, là, vous avez ici, bon, émouleur, mais aussi des meules qui servaient à ces moulins, ce qu'on appelait des moulins arnois, à polir les armures. Là, c'est qu'on se retrouve à la fin du Moyen-Âge, lorsque la tôle va se développer grâce au marteau hydraulique. Alors, en effet, la grande nouveauté dans l'histoire de la métallurgie médiévale, c'est l'utilisation de l'énergie hydraulique, non pas seulement pour polir ou pour aiguiser, mais pour produire le fer. Alors, avec ce qu'on appelait les forges hydrauliques, qui sont des marteaux hydrauliques, il faut savoir que dans les appareils qu'on avait, qu'on appelle des bois-fourneaux, ce qui ressort, ce n'est pas de la fonte, c'est du fer qui est mêlé à de la scorie, et il faut marteler ce bloc, qu'on appelle une loupe comme vous voudrez, hein, il y a des tas de noms qui sont donnés, pour en expurger la scorie, on chauffe, la scorie est liquide ou plus ou moins pâteuse, on tape sur le fer pour expurger la scorie. C'est un très gros travail, difficile, hein, faut maîtriser la technique, mais c'est aussi extrêmement fatigant. Et on ne peut pas forger de trop grosses pièces. Alors, le marteau hydraulique permet donc d'abord de préparer, de transformer cette loupe en un lingot ou une barre. Et ensuite, ça permet de mettre en forme cette pièce, hein, étirer la barre pour avoir ces tirants qui ont servi à faire les cathédrales, qui peuvent avoir jusqu'à 4 mètres de long, enfin, c'est soudé. Ça permet de faire des soudures aussi, ça permet des tas de choses. Alors, le marteau va permettre de travailler des pièces beaucoup, beaucoup plus importantes, avec un moindre travail humain. Hein. Et voilà, donc, ça se multiplie. Ouais, d'abord, on est là au XIIe siècle, les premières qui ont été découvertes, toujours dans les abbayes cisterciennes, il y a deux raisons possible à mettre en avant, soit les cisterciens l'ont inventé, soit c'est eux qui ont laissé les meilleures sources. Hein. Voilà. Alors c'est toujours possible, toujours le problème des sources, hein, quand on travaille sur quelques données archéologiques ou quelques données textuelles. En tout cas, ça se multiplie au XIIIe et XIVe siècle. Le principe, c'est celui-là. Hein. Vous avez la came, vous avez ici l'arbre de la roue. La roue va tourner, elle va appuyer donc sur la queue du marteau. Et elle appuie dessus, elle lève le marteau, puis ensuite, en tournant, elle va abandonner la queue. C'est exactement la même chose que pour le foulon. Simplement, on n'est pas du tout dans les mêmes données techniques. Le foulon, vous avez 4 bouts de bois et ça peut marcher. Là, vous allez lever une masse de fer qui va être, pour les premiers qu'on connaisse, dans les 80 kilos. Hein, et évidemment, il faut beaucoup plus d'énergie. Il faut aussi une structure beaucoup plus solide, hein, structure à l'extérieur et structure enterrée aussi, il faut que ça tienne. Hein. Donc là, ça a été vraiment un changement assez radical et il faut surtout beaucoup, beaucoup plus d'énergie pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, multiplication de ces marteaux hydrauliques, eh bien là, c'est le travail de Catherine Vernas sur le midi de la, sur le, la région des Corbières et des Pyrénées, hein, avec là, dans la Montagne Noire, un ensemble important fin 13e, début 14e. Là, toujours pour la même époque, dans ce carré ici, qui est le pays de Foix, hein, multiplication qu'on retrouve aussi en Allemagne, partout où des recherches, dans les pays où il y a du fer, des recherches sérieuses ont été menées, on voit qu'il y a une mécanisation, je dirais, de la sidérurgie extrêmement forte, hein, à partir du XIIIe siècle. Alors, on l'a étudié à la forge de Fontenay, là je ne peux pas résister parce que moi aussi je vous présente mes travaux. Hein. Voilà, dans ce bâtiment de la forge de Fontenay, on a reconstitué une roue hydraulique, elle est presque comme une roue médiévale, pas tout à fait, il y a beaucoup plus de ferraille parce qu'on voulait qu'elle tienne, hein, et qu'on n'a pas tous les jours un ouvrier qui est capable de resserrer et de remettre en place les chevilles. Hein. Voilà, donc plus de fer, voici l'arbre de la machine, le marteau qui est ici, qui est en position d'attente, il est calé. Hein. On n'a pas cherché à forger du bois. Et voilà maintenant la machine en marche. OK, bon, alors, ce principe du maillet et de la cam va être appliqué à la fabrication du papier. Le papier, vous saviez qu'il arrive, enfin, vous savez pas, il arrive, on a des papiers déjà qui arrivent très tôt au Moyen-Âge, mais qui sont des papiers d'importation, ça vient du monde arabe, hein, les Arabes ayant même récupéré la technique sur les Chinois, et c'est à partir du 14e siècle, 13e siècle en Italie, il y en a eu très tôt en Espagne, mais dans l'Espagne musulmane, et à partir du 14e siècle en France. Alors voilà donc à quoi sert ce maillet. Il va servir à... Le papier, ça se fait à l'époque avec des chiffons, du tissu. On met ce tissu dans une cuve, un pourrissoir. Puis ensuite, on met ce tissu dans les cuves de ces maillets, de ce moulin à papier, et là, sur les têtes de ces maillets, il y a des bouts de ferraille de formes différentes selon ce qu'on veut faire, où il n'y a pas de bout de ferraille, et on passe d'une cuve à l'autre pour réduire tout ça en espèce de bouillie. Hein. Une espèce de bouillie, cette bouillie, eh bien, on la met ensuite dans une cuve, et là, eh bien, on met avec une forme, c'est formé d'une sorte de treillage, de grillage, et là, on va sortir ensuite les feuilles les unes après les autres. Là encore, il y a un coup de main à prendre, je ne sais pas le faire. Bon, donc le moulin à papier, il va utiliser généralement des sites. Là, on est à Essonne. Et alors, ce qui est intéressant sur ce document-là, c'est qu'on voit l'ancienne figure des moulins du temps passé, la nouvelle figure des moulins du temps présent. La différence, c'est ici. Ce bâtiment est celui-là. Là, ce sont des moulins à blé. Ici, on a un moulin à papier. Alors, il n'y a pas de différence dans le système hydraulique. On n'a pas besoin de plus d'énergie. Hein, c'est pas comme pour le marteau. Hein. Là, simplement, ce qu'il faut, c'est augmenter la dimension du bâtiment. Pourquoi ? Pour mettre le séchoir à papier. Donc, il y a un passage, un changement de type de production. Il n'y a pas un changement nécessaire de la production d'énergie. Alors, pourquoi on a ce document ? Parce qu'il y a eu un procès, parce qu'il y avait un passage, là, le long du moulin, qui a été fermé par l'usine à papier. C'est tout problème d'accès, hein, à l'arrière. Voilà. Alors, ces moulins à papier, ben, on avait vu le problème de 3 tout à l'heure, il se multiplie à 3, qui est devenu qui au 15e siècle était le premier centre papier d'Europe. Hein. Voilà. Alors, les moulins, à quoi servaient-ils ? Eh bien, voici une représentation travaillée par deux de mes étudiants à partir des documents écrits à 3. On voit que le nombre de moulins ne cesse de croître. Hein. On passe sur la ville de 3, en 150. Il y en a 13 qui sont connus. On arrive à des chiffres de 35, hein, à la fin du 15e siècle. Donc, ça a été multiplié par 3, multiplication du nombre des moulins. Donc, Marc Bloch n'est peut-être pas totalement tort, une multiplication au moins du nombre des moulins. Hein, et puis surtout, un changement d'activité jusqu'au 13e siècle. On a essentiellement des moulins qui sont des moulins à blé. Quand c'est non défini, ça veut dire moulin à blé. Hein. Quand on dit un moulin, c'est un moulin à blé. Bon, ensuite apparaissent là, en jaune, des moulins à foulon. Troyes a toujours été une ville textile importante. Des moulins à temps. Et puis alors, les moulins à papier en bleu qui deviennent de plus en plus nombreux. Alors, Troyes est une grande ville industrielle. Elle a des caractères tout à fait spécifiques. Il ne faudrait pas en tirer des conclusions pour les autres villes. Hein. Mais ce que je voulais montrer, c'est la diversité des activités. Et on voit là que les moulins à papier à 3 font presque plus du tiers, entre le tiers et la moitié, hein, des moulins utilisés. Donc, moulins industriels en ville, voilà ce qu'il faut noter, qui sont très, très importants. Maintenant, c'est les recettes du moulin de Bazac, là, de Toulouse. Eh bien, ce qui m'intéresse, moi, c'est que ces moulins industriels, donc, on a ici moulins à paré. Moulins à paré, ce sont les foulons, hein, en gros. Moulin à paré, moulin à aiguisé, moulin à papier, hein, et total des moulins industriels. Bon, là, on a donc la valeur de leurs revenus. On passe de 7,35% en 1470 à 20,8%, 21% on peut dire, au début du XVIe siècle. Là, on a aussi dans une ville qui est moins spécifiquement industriel, c'est surtout une grande ville commerçante, on a aussi une multiplication des activités à la fin du Moyen-Âge, autour de ces choses-là. Voilà. Alors, on est dans une beaucoup plus petite ville, un village, Molinon, qui est intéressant, c'est un travail de Joséphine Rouillard, ça, qui nous montre la multiplication des moulins au cours du... Au XIIIe siècle, il y a un moulin. Au milieu du XIVe siècle, il y a ce moulin à blé qui existe toujours. Il y a un foulon et un moulin à temps. Ensuite, le moulin à temps disparaît. On a un moulin à blé et un moulin à foulon. On retrouve ça, puis un moulin à foulon qui a disparu. C'est la petite barouche qui est là. Et un moulin à blé. Et voilà. Donc, il y a en permanence des activités, des moulins qui viennent, qui disparaissent. Le même moulin a pu servir, je ne peux pas vous garantir que le moulin à foulon qu'on a ici, ce n'était pas le moulin à blé 50 ans auparavant. Il y a un changement d'activité, c'était très très visible à Troyes, hein, où on a donc des moulins à blé se transformant en moulins à papier très fréquemment. Exemple de multiplication, c'est la ville de Corbeil. On va retrouver ses ramifications. Corbeil, c'est encore une de ses petites Venises. Mais c'est fini. Hein. Voilà, une de ces petites Venises chères à deux personnages extrêmement importants, André Guillaume et Louis XI. Hein. Voilà. Quoi ? Le Goff. Oui, mais le Goff, il t'a pris la formule, non ?
Non,
c'est lui. Ah oui, c'est lui qui a dit le premier, d'accord. Alors voilà, vous voyez ici une multiplication, une diversification des moulins à la fin du Moyen-Âge, moulin à blé, moulin à papier, moulin à huile. Voilà, donc, ce qui se passe. Alors, j'en ai fini. Hein, pour insister sur l'importance dans cette société médiévale de l'énergie hydraulique, elle est primordiale. C'est à partir de cette énergie hydraulique médiévale que va se développer l'industrie de l'Europe moderne et plus tard, du début de l'Europe contemporaine. Ça, c'est un fait. Première remarque. Deuxième remarque, c'est que cette industrie a laissé un patrimoine qui est extrêmement menacé. Parce que c'est un patrimoine qui a vécu, hein, qui a vécu, et qui, d'autre part, est soumis à des contraintes qui sont énormes, et de plus en plus énormes. D'abord, contraintes du développement urbain. Hein. Il y a eu des drames comme ça qui sont produits, en particulier à Corbeil. Hein. Au développement urbain, contraintes aussi dues à la loi sur l'eau, à la directive européenne, qui voudrait qu'on supprime tous les seuils, c'est-à-dire supprimer tout ce qui reste de ces moulins médiévaux. Alors là, on a une contradiction énorme entre les lois sur la protection du patrimoine et la loi sur l'eau. Inutile de vous dire de quel côté mon cœur penche, hein, d'autant plus que je trouve qu'on dit beaucoup, beaucoup de bêtises, hein, quant à la suppression des seuils. Bon, enfin, bref, passons, je ne vais pas rentrer dans ce débat qui nous amènerait beaucoup plus loin. Merci.
Bon, je crois qu'il ne faut pas aller à volo. Hein.
Voilà.
Non, je remercie Paul parce que c'est vraiment remarquable son exposé. Et je me dis toujours que le moulin, c'est quelque part pour l'artisanat, pour l'industrie, pour la population civile, ce que la cathédrale est aux religieux. Mais en plus, la cathédrale est là de l'architecture, de la sculpture, etc., qui fait sa magnificence et sa beauté. Mais le moulin, c'est la résistance d'un tel édifice qui résiste à l'eau, qui résiste aux fondations, qui résiste aux vibrations. C'est vraiment un chef-d'œuvre de dynamique.
Est-ce qu'il résistera à l'homme ?
Voilà. Mais c'est un peu, quelque part, je trouve que le moulin, c'est un peu comme la plateforme pétrolière.
Oui.
Voilà, c'est quelque chose qui est soumis à des efforts, etc. Et qui demande de la part des constructeurs, c'est-à-dire des constructeurs de moulins, une science, une culture de dynamique que n'a pas l'architecte. Je pense que c'est vraiment quelque chose de spécifique à la société en matière de construction. Et moi, j'avais une question là. Il y a à propos de ces moulins donc à fabriquer, à laminer. Il y a un moulin à Amiens, à la fin du XIIe siècle, qui s'appelle le moulin Tapeplomb. C'est un moulin donc qui est fait pour faire des tablettes de plomb à partir de lingots venant d'Angleterre. Puisque Le plomb sert à couvrir les cathédrales, etc. Oui. Donc il y a un moulin, il me semble, qui date des années 1120.
La couverture des cathédrales, elle était faite avec du plomb coulé.
Oui.
Ça, c'est certain.
Coulé, pas plaqué.
On coulait des tables de plomb, hein. On coulait des tables de plomb, comme dans l'Antiquité. C'est comme...
Alors, mais pas sur la toiture.
Sur la toiture, non, clair, on les coulait en bas.
D'accord, oui.
Il suffit de voir, c'est une très bonne description dans le dictionnaire raisonné de l'architecture de Viollet-le-Duc, des plaques qui étaient à peu près larges comme ça, qui faisaient à peu près 20,80 m à 2 m de long, tu vois, c'est épais comme ça, et c'est avec ça qu'on couvrait. Hein, et on essaye on recouvre encore actuellement la restauration avec le même type de plaque, à part qu'on ne les fait plus en France, on ne sait plus.
D'accord, donc il y a un moulin comme ça au début du XIIe siècle à Amiens.
Le moulin, à quoi il pouvait servir? À faire du plomb martelé, hein.
Bah, je pense, oui.
Alors, généralement, ce que je connais comme pièce de plomb martelé, c'est plutôt martelé à la main, hein, pour obtenir du décor. Hein. Là encore, on va revoir Viollet-le-Duc, ces décors en plomb martelé. Alors, est-ce que c'était préparé par un martelage mécanique qui, lui, peut-être donnait une autre texture,
si ouais. Parce que le plomb, c'est malléable.
C'est malléable, mais bon, ça se travaille très bien à la main, une plaque de plomb. On a fait beaucoup de décors en plomb qui étaient dans les églises, et la plupart de ces décors ont disparu. Hein. Ils ont disparu parce qu'ils étaient refondus. Bon, je vais creuser, ça m'intéresse beaucoup ce que tu viens de me dire.
Voilà.
Je voulais savoir si vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce lien canaux d'irrigation, moulin. Vous avez évoqué à un moment que c'était crucial pour le Moyen-Âge. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors là, il y a encore une communication entière à faire. Bon, quand on fait un canal d'irrigation, on va automatiquement on va suivre en gros, on a une pente faible qui va suivre à peu près les courbes de niveau. Donc on va avoir du dénivelé au bout d'un certain temps, on peut en profiter pour mettre un moulin. Ça, c'est la thèse de Miguel Barceló, qui a travaillé avec sa femme sur Majorque et puis en Catalogne. Donc c'est des pays méditerranéens, on peut dire que ce qui commande, c'est l'irrigation. Hein. Et on met le moulin là où on peut. Or, on est dans des pays méditerranéens, avec une irrigation d'été, de saison sèche. Hein. Et là, alors qu'on trouve chez nous, dans nos régions, et ça c'est quand même beaucoup plus neuf, c'est des géographes qui ont travaillé d'abord là-dessus, les historiens s'y mettent depuis peu, des canaux d'irrigation qui sont faits pour une irrigation d'hiver, irrigation d'hiver pour des prairies irriguées, l'eau va apporter des nutriments, hein. On ne craint pas la surabondante de nitrate et de phosphate à l'époque. Hein. Donc ça apportait des nutriments pour les prairies et en même temps que ça va protéger du gel. Hein. Donc là, ça se fait à peu près partout. Et on a utilisé là les bièves des moulins. Il semble que là, on soit dans un domaine où le moulin l'emporte. On utilise le bief du moulin pour faire des petites ouvertures qui vont permettre d'irriguer dans ces saisons où l'eau est abondante. Il n'y a pas de concurrence là pour l'eau, hein, alors que dans le Midi, il peut y avoir de la concurrence pour l'eau entre le moulin et l'irrigation. Là, il n'y a pas de concurrence, et on va comme ça irriguer des prairies entières. On peut dire que tous les fonds des petites vallées du bassin parisien connaissaient ce type d'irrigation. Ça, actuellement, les travaux qui ont été faits portent surtout sur les zones montagneuses ou les zones du nord de l'Europe. Hein. Mais ça fonctionnait très, 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 très. Très très longtemps. Moi, j'ai vu des structures encore en place. Hein. C'était dans l'eau ou en Haute-Marne, je ne sais plus. Hein. Ça ne fonctionne plus, mais enfin, on a encore les structures, les canaux avec les petites vannes.
Ça existait aussi pour les vignes au 19e siècle, après le projet phylloxéra.
Oui.
Donc, on a fait des systèmes pour.
Mais on n'est pas au Moyen-Âge, là.
Non, mais je veux dire sur
l'utilisation. Oui, mais c'est des utilisations qui sont vieilles comme le monde. Hein. On trouve des trucs un peu du même genre partout.
Je me demande si... je sais qu'au première moitié du XVIIIe siècle, dans le cadre de Beauvais, les terrains qui sont situés au bord de l'eau ont une plus-value foncière assez importante par rapport aux terrains qui sont en arrière. Parce que, d'une part, on peut puiser de l'eau pour arroser le jardin, donc ce qui donne quand même des beaux légumes. Et d'autre part, comme l'eau est un peu pourrie parce qu'il y a les égouts, etc., ça donne de l'engrais. Donc il y a une différence à peu près de 15 à 20% dans le prix.
Mais bon, ça a duré longtemps. Hein, parce que je connais le cas d'une petite commune du Tarn-et-Garonne au bord d'un ruisseau qui s'appelle la Barguelonne, hein, dans lequel il n'y a plus accès au ruisseau, puisque les terres des prairies, hein, étaient tellement estimées que lors des partages, eh bien, on coupait, on partageait entre tous les héritiers. Et résultat, quand tu regardes le cadastre, tu as une série de petites bandes, hein, et ça ne vaut pas le coup d'être exploité, mais on ne veut surtout pas le livrer aux cousins ou aux voisins. Hein. Il a fallu le remembrement pour que ça cesse. Quoi, tu vois. Donc, ça, c'est cet exemple actuel confirme tout à fait ce que tu dis. Hein.
Merci beaucoup, Paul Benoît. Donc, on se retrouve à 14h. Je vous remercie. Je vous dis à tout à l'heure. La salle va être fermée. Merci à tous.